Donc, on est dans Jean chapitre 4, c'est page 689. Jean chapitre 4, page 689. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser l'eau, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. »« Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari, » car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, « je vois que tu es un prophète. » Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez pas, donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent, « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée.
Merci Emmanuel. Sur la première année de son ministère, Jésus a probablement eu des dizaines de conversations. Or les chapitres 3 et 4 ne nous en rapportent que deux. L'apôtre Jean a donc choisi les conversations qu'il nous rapporte, et il doit même avoir choisi soigneusement ces conversations. Il serait difficile de trouver un plus grand contraste entre les interlocuteurs. Au chapitre 3, on a un homme, un juif, un chef respectable, et il a un nom, Nicodème. Au chapitre 4, on a une femme avec un passé peu respectable, et elle n'a pas de nom. Cette femme est une fille égarée, et en un sens, on peut en dire autant de son peuple, les Samaritains. À l'époque de Jésus, les Juifs, qui sont les descendants de Judas et de Benjamin, occupaient la Judée au sud et la Galilée au nord. Et entre les deux, il y a le territoire des Samaritains. Et c'est ce territoire que Jésus est amené à traverser. Qui étaient ces Samaritains? Ils étaient les descendants de colons venus d'Assyrie à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils avaient remplacé les 10 tribus du royaume du nord alors que celles-ci avaient été exilés en Assyrie. C'est les colons qui se sont installés en Samarie et qui ont adopté la religion du Dieu local, du Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, l'Éternel. Au verset 12, la femme parle d'ailleurs de Jacob comme de son ancêtre. Et sur ce point, remarquez que Jésus n'a rien à redire. Il ne la reprend pas. Voyez-vous, les Samaritains prétendent avoir droit à quelque chose de l'héritage de Jacob. Et c'est d'autant plus probant que dans la Bible, ces 10 tribus d'Israël ont bien disparu du radar. Alors que les Samaritains, eux, sont là, sur la terre que Jacob a transmise à son fils Joseph. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cette scène rapportée au chapitre 4, elle n'a pas lieu n'importe où dans le territoire des Samaritains. Verset 5. Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Ce champ doit rappeler certaines divisions et soulever certaines attentes. Si on trace un peu l'historique de ce champ dans toute la Bible, on se rend compte qu'il y a un élément essentiel. Les ossements du patriarche Joseph ont été rapportés et enterrés dans ce champ-là. La scène a donc lieu sur un lieu hautement symbolique. C'est une terre historique. Et les Samaritains de Sichar ont sous leurs pieds, littéralement, des reliques qui sont significatives, et ils s'y tiennent à ces reliques jusqu'à des temps meilleurs. Ils représentent tout ce qu'il reste à Joseph. Or, la descendance de Joseph, c'est Éphraïm, son fils. Ces Samaritains n'en sont pas moins un Éphraïm rebelle, corrompu, méprisé des Juifs. Et c'est très clair au verset 9, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ces deux nations, Juda et Éphraïm, sont divisées, et nous y reviendrons. L'homme juif d'une part, chapitre 3, la femme samaritaine d'autre part, chapitre 4. Le contraste, comme je l'ai dit, ne pourrait être plus grand. Ceci dit, je ne pense pas que ces personnes-là soient au centre de leurs chapitres respectifs. C'est bien plutôt Jésus qui domine chacun des chapitres 3 et 4. Au chapitre 3, l'homme Nicodème était là comme un prétexte. Un prétexte pour que les contours de Jésus se dessinent à nos yeux un peu plus clairement. Plus on suit la conversation avec Nicodème, si vous en souvenez au chapitre 3, plus on voit ce qui fait que Jésus est un homme à part. Jésus est fils de Dieu, en communion avec Dieu, et envoyé par lui pour sauver l'humanité. De sorte qu'à l'issue du chapitre 3, j'espère bien qu'on l'a complètement oublié, Nicodème. Il me semble que c'est un peu la même chose au chapitre 4. Cette conversation avec la femme samaritaine, elle est un prétexte pour que les contours de Jésus se dessinent plus clairement à nos yeux. À un moment donné, d'ailleurs, cette femme samaritaine disparaît du paysage. Elle s'efface pour laisser toute la place à Jésus. Vous voyez les versets 41 et 42 au chapitre 4. Verset 41. Un bien plus grand nombre de Samaritains crurent à cause des paroles de Jésus, et ils disaient à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quelles vont être les implications de ces premières observations ? Bien, dans le temps qu'il nous reste, il va nous falloir mettre tous les projecteurs sur Jésus. Il y a certains mérites, sans doute, à se reconnaître soi-même derrière cette pauvre femme. Certains voudront se reconnaître dans ses échecs relationnels, d'autres dans son incapacité à mener sa vie par elle-même, ou encore dans ses tâtonnements spirituels, ou peut-être plus positivement dans son annonce du Jésus-Christ au plus grand nombre. On pourrait aller dans cette direction, mais il me semble plus approprié que nos yeux soient résolument fixés sur Jésus et sur nul autre. Au demeurant, n'est-ce pas la démarche qui fait le plus justice à ces Samaritains qu'on rencontre au chapitre 4 ? S'ils étaient à nos côtés, ils seraient les premiers à insister que nous nous concentrions sur Jésus. La femme samaritaine, elle passe son temps à interroger, explorer, annoncer Jésus. Et les Samaritains ensuite ont 2 jours et il semble bien qu'ils font la même chose. Nous, on a beaucoup moins de temps, il va falloir faire plus court. Mais sans plus tarder, mettons donc les projecteurs sur Jésus. Quels sont les contours de Jésus qui vont alors apparaître à nos yeux ? On reconnaîtra en Jésus le Christ, le Sauveur du monde. Et c'est notre premier point, à partir des versets 1 à 42. Autant le chapitre 3 était parsemé concernant Jésus de mentions de fils, fils de Dieu, autant le chapitre 4 ne fait aucune mention de ce titre-là. Par contre, il y a quelques autres titres qui sont mis en avant. Il est d'abord question de Jésus comme du Christ, du Messie. C'est un titre royal. On le trouve mentionné au verset 25 et 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Et verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» Donc d'une part Christ, et d'autre part, il est aussi question de Jésus comme sauveur du monde. Un titre universel. Verset 42, « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » D'où peuvent leur venir ces concepts ? Il se trouve que les Samaritains n'acceptaient que les 5 premiers livres de la Bible. Autrement dit, les concepts qu'ils vont déployer par rapport à Jésus, ils les auront trouvés dans ces livres-là. Et on peut les tracer, il me semble, à partir de la Genèse en particulier. Pour un Samaritain, le Christ, le Messie, c'est cette figure royale, ultime, issue de Judas, dont il est question en Genèse, au chapitre 49, verset 19. Je vous lis le passage, inutile de vous y tourner. « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Quant au Sauveur du monde, cet autre titre qu'on rencontre au chapitre 4, le précédent dans le Pentateuque, c'est Joseph. En son temps, il fut sauveur du monde. Pour un temps, Joseph fut le personnage le plus éminent d'Égypte. Vous connaissez sans doute son histoire. Il s'est retrouvé en position de sauver la vie au monde entier pendant 7 années de famine. J'ai rapporté sur votre feuillet quelques références dans la Genèse qui vont dans ce sens. Au chapitre 41, on a Pharaon qui donne un nouveau nom à Joseph, Tsaphnas Paneach. C'est un nom que la Vulgate a choisi de traduire par sauveur du monde. Le terme est obscur, personne ne sait trop ce que ça veut dire. Mais c'est intéressant que ce précédent de traduction existe. Plus loin encore au chapitre 4, 41 de la Genèse, on voit le monde entier se diriger vers Joseph pour son salut. Et par 3 fois un peu plus loin dans le récit, au chapitre 45, 47, 50, Joseph est décrit comme celui qui sauve la vie. Ça peut nous surprendre, nous qui sommes de ce côté-ci de Jésus, mais pour un Samaritain, le sauveur du monde par excellence, c'est Joseph. En Jean 4, Jésus est donc reconnu tout à la fois par les Samaritains comme le roi issu de Juda et le sauveur du monde, le nouveau Joseph. Mais là, on a un petit problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 42 ce qui se passe. Une lecture attentive montre que les Samaritains ne pensent pas dire deux choses différentes. D'une part Christ, d'autre part sauveur du monde. C'est la même chose. Ils pensent reformuler précisément les mêmes choses que la femme leur aura suggérées au verset 29. Comment est-il possible que ces deux titres, Christ, donc roi issu de Juda, et nouveau Joseph, soient jamais équivalents? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont à voir l'un avec l'autre? C'est Ézéchiel 37 qui fournit, à mon avis, la clé de lecture, un passage vers lequel je vous invite à vous tourner. On y voit deux bâtons de commandement qui sont mêlés en un seul. Donc c'est Ézéchiel 37. Donc ces deux bâtons sont mêlés de telle sorte qu'il n'y en a plus qu'un seul. Un seul sceptre pour un seul roi. Je vais lire à partir du verset 19 en Ézéchiel 37. C'est la page 559. Ézéchiel 37 à partir du verset 19. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'y rattachent. Je les joindrai au bois de Juda, et je n'en ferai plus qu'un seul morceau de bois, si bien qu'ils seront unis dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, devant leurs yeux, et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de tous côtés, et je les ramènerai vers leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toutes leurs transgressions. Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront ainsi que leurs enfants et petits-enfants, pour toujours, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Est-ce que vous commencez à voir l'accomplissement de cette prophétie en Jean 4. Jésus, en tant que Christ issu de Juda, est venu en Samarie pour récupérer de la main d'Éphraïm la royauté sur les autres tribus d'Israël, de sorte que Jésus est roi sur tout Israël. C'est un tournant historique, comme quoi son passage en Jean 4 par la Samarie, c'est tout sauf un accident de parcours qui serait nécessaire à cause de la séparation entre la Judée et la Galilée. Pour achever de se convaincre que c'est bien ce qui se joue en Jean 4, revenez à Jean 4 et voyez comment le verset 25 fait suite au verset qui précède. Donc Jean 4, verset 25. Il y a la mention du Christ. Elle semble arriver de nulle part dans la conversation. Christ est mentionné sur l'élève de la Samaritaine. Sauf que juste avant, au verset 20-24, Jésus vient de parler d'un temps où Juifs et Samaritains ne seront plus divisés sur la question de l'adoration. Et c'est justement sur ce thème-là, d'une louange unifiée, que le prophète Ézéchiel avait conclu son chapitre 37. Verset 25, en Jean 4, il y a la perspective d'une adoration dans l'unité, et il n'en faut pas plus pour que la Samaritaine pense au Christ, cette figure qui doit accomplir exactement cela. La fille égarée de Samarie, qui avait erré jusque-là, en vient donc à rechercher l'homme. Et justement, Jésus est devant elle, et symbole fort, le Christ se trouve juste à côté de ce champ où sont enterrés les ossements de Joseph. Alors j'imagine bien sûr que certains d'entre vous ne verront pas en quoi tout cela nous concerne. Après tout, la fin de l'animosité religieuse entre Judas et Éphraïm, nous on s'en contrefiche. S'il s'agit de reconnaître en Jésus une figure royale, une figure universelle, on préfère prendre des raccourcis. Qui a envie de se perdre dans la prophétie d'Ézéchiel ? Mais que Jésus assume d'abord la royauté sur Judas et Éphraïm, est-ce que ça peut nous laisser indifférents ? Je ne crois pas. On n'est pas libre de s'intéresser seulement aux prophéties dont l'accomplissement va nous bénéficier de façon directe. Jésus n'est pas d'abord mon roi, mon berger, mon sauveur, mon Christ. S'il est le Christ, alors il a d'abord deux nations à prendre en charge avant de pouvoir porter toutes les autres. Et dans la mesure où il est prêt à endosser le rôle à leur égard, il aura sans doute les épaules assez larges pour nous aussi qui sommes issus des nations. Le fait que Jésus ait été d'abord seul et même roi sur Israël a effectivement eu des conséquences heureuses pour nous tous. Si Éphraïm n'a plus de raison d'être jaloux de Judas, et si Judas n'a plus de raison d'être hostile à Éphraïm, cela indique que le temps est venu où la bannière du Seigneur va être élevée à toutes les nations. De sorte que toutes les nations sont mises en demeure, à partir de ce moment-là, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et la fin du chapitre 37, que je n'ai pas lu, mais vous trouverez le verset cité sur le feuillet, elle le laissait déjà entendre. Regardez comment ça se termine avec le verset 28. La conclusion de cette prophétie à propos d'un roi qui unifiera Israël et Éphraïm, Israël en 12 tribus, c'est que les nations sauront qui est l'Éternel. Et c'est aussi ce qu'on peut voir dans cette prophétie d'Amos que j'ai listée juste en dessous, à laquelle Jésus fait allusion en passant au chapitre 4. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il parle de moisson vers la fin de notre passage, encore en Samarie. Jésus évoque un bouleversement des saisons. Il dit que là, c'est déjà le temps de la moisson, alors même que le semis vient d'avoir lieu. Et Amos, dans son contexte, évoquait déjà ce bouleversement, cette précipitation des saisons. Et comme vous pouvez le voir dans la citation, c'est au bénéfice des nations. Si Dieu a relevé la maison de David, c'est pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors oui, appeler Jésus sauveur du monde, c'est effectivement dire que Jésus a des prétentions de salut sur tout le monde. Si vous n'êtes pas chrétien, prenez note que votre Seigneur a été nommé, que cela vous plaise ou non. Votre Sauveur a été nommé. Il est le Sauveur du monde, il n'y en a pas d'autre, et donc vous perdriez votre temps à chercher plus loin. Imaginez Joseph quand il dominait sur l'Égypte. Si vous habitiez un pays avoisinant, vous pouviez crever de faim de votre côté, si c'était votre choix, ou vous pouviez cheminer jusqu'à Joseph, le Sauveur, l'homme providentiel, celui que Dieu avait nommé pour votre salut et le salut du monde entier. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à supplier Jésus de vous donner ce que vous êtes incapable de vous procurer par vous-même, de cheminer jusqu'à lui pour obtenir cette relation à Dieu qui perdure jusque dans l'éternité. Car en dehors de Jésus, vous allez sûrement périr. Jésus est votre sauveur. On peut choisir d'ignorer ses prétentions, mais c'est s'enterrer soi-même. À vous de choisir. Si vous êtes chrétien, par contre, croyez que le temps est propice. C'est là-dessus que Jésus insiste dans son échange avec les disciples, au verset 35 et autour. Quand on est tenté de penser qu'il n'est pas temps, il est toujours temps. Temps de proclamer, temps d'annoncer. Le royaume du Christ s'étend désormais tous azimuts, de façon effrénée. Je vous invite à vous y préparer. Dieu est déjà à l'œuvre, ici et là, partout. Il nous devance beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Premièrement, ça doit motiver notre proclamation. On ne part pas de rien. Et c'est peut-être ce que Jésus veut dire quand il dit « D'autres ont travaillé et vous entrez dans leur moisson ». Et deuxièmement, ça doit aussi nous décomplexer, le fait que Dieu nous ait devancé. En français, on a une expression « enfoncer des portes ouvertes ». Imaginez un personnage de dessin animé qui recule, qui prend de l'élan, qui serre les dents et qui se met à courir vers l'impact. Sauf que l'impact n'a pas lieu, la porte est ouverte. Enfoncer une porte ouverte. Quand on se prépare à proclamer l'Évangile, souvent on s'endurcit parce qu'on se prépare à un choc. Et s'il nous fallait croire qu'il y a plus de portes ouvertes ici et là qu'on ne le croit. Sur votre lieu de travail, avec vos colocataires, au parc, dans le bus, dans l'avion, essayez quelque chose qui peut tout changer. Dans votre tête, croyez que tous ces gens que Dieu met sur votre route ont déjà été apprêtés. Et qu'est-ce que nous avons à transmettre à ces gens que Dieu mettra sur notre route? Des paroles. Mais quelles paroles? On en vient là à notre deuxième point, beaucoup plus brièvement. Reconnaître Jésus sur parole. En Jean 4, regardez le verset 19, déjà la Samaritaine, elle signalait que Jésus était un prophète. Qu'est-ce qui caractérise un prophète? C'est quelqu'un qui parle et après qu'il ait parlé, rien n'est plus pareil. C'est ainsi d'ailleurs que Jésus se décrit lui-même au verset 26. Donc il répond à sa question et il dit littéralement « Je suis celui qui te parle ». Je suis celui qui te parle, un parleur. En Samarie, Jésus n'a rien fait d'autre que parler. De sorte que si des gens croient en lui, c'est uniquement sur la base de parole. Croire sur la base de parole, ça paraît assez basique. Mais c'est pas comme si c'était la norme jusque-là dans cet évangile de Jean. Un des bénéfices de prêcher sur un passage aussi long, c'est que ça nous force à prendre un peu de hauteur. J'ai mis du coup comment la section allant du chapitre 2 au chapitre 4 se découpe peut-être et voir si pour qu'on puisse voir si ça nous aide. Depuis le début du ministère de Jésus, c'est plutôt sur la base de miracles que des gens ont cru et c'était le cas à la fin du chapitre 2. Je vous propose de comparer justement la réaction des Samaritains avec celle des Juifs. Donc c'est les blocs C et C' sur le feuillet. Initialement, Jésus s'était manifesté à Jérusalem avec la geste d'un prophète. Ça aurait dû susciter une écoute attentive, au lieu de quoi il y a eu de l'enthousiasme superficiel chez plusieurs Juifs qui ont cru. Et Nicodème en était un. Mais Jésus ne voulait pas de cette réaction-là. Et c'est encore la même chose au chapitre 4. Rien n'a changé. Après la Samarie, quand Jésus retourne en Galilée, territoire juif, il est certes bien reçu, mais il n'est pas reçu comme un prophète. Il n'est pas honoré comme il l'a été en Samarie, à savoir comme un prophète. Il n'est pas reçu comme quelqu'un qui parle, il n'est pas reçu comme quelqu'un dont les paroles font écho à des prophéties de l'Ancien Testament. Nous, en Galilée, quand il revient chez les siens, il est encore reçu comme un faiseur de miracles. Il s'en insurge, c'est le verset 48. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. L'épisode à Cana, qui conclut ce chapitre 4, doit nous convaincre qu'il faut croire Jésus sur parole. Et les détails du verset 46 sont essentiels pour bien comprendre ce qui se passe. La scène a lieu à Cana. Or, l'enfant malade, il est à Capernaum, qui se trouve à une trentaine de kilomètres. Donc le père, à Cana, face à Jésus, il supplie Jésus de descendre avec lui jusqu'à Capernaum. Mais là, Jésus ne lui laisse pas d'autre choix que de le croire sur parole. Verset 50, « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Avec les mêmes paroles que celles du grand prophète Élie avant lui, Jésus met l'officier au pied du mur. « Vas-y, ton fils vit. » Alors vous connaissez tous le proverbe « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Pour le père de l'enfant, comme pour nous, c'est le moment de la décision. En dernier recours, ça n'est que sur parole prophétique, sur un faisceau de paroles, que l'on en vient à reconnaître Jésus pour qui il est. Qu'est-ce que nous avons à nous mettre sous la dent et à transmettre autour de nous, à tous ceux qui viendront à nous, dans les champs qui sont blancs pour la moisson? Nous avons à transmettre des paroles prophétiques qui ont été consignées dans la Bible. Ce sont des paroles que nous avons en main, à cet évangile et toute la Bible. Et c'est sur cette seule base-là qu'il nous faut décider, positivement ou négativement, si Jésus est bien le Christ. Et ainsi répondre à la question que posait la femme samaritaine au verset 29. « Ne serait-ce point le Christ ?» Qu'en dites-vous? Des paroles pour se décider. Nous n'aurons pas de nouveaux miracles sur demande, mais le succès de ce signe miraculeux au chapitre 4 nous montre que les paroles de Jésus ne sont pas des paroles en l'air. Et ça doit nous suffire. Nous avons en main tout ce qu'il nous faut pour nous décider. C'est sur parole que l'on en vient à croire que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Et si nous croyons en lui, nous aurons la vie en abondance, cette eau vive qui n'a jamais de terme, une relation à Dieu, à jamais. Avant de prendre une vingtaine de minutes pour discuter autour des tables, je vous propose de conclure en priant. Éternel, toi qui parles puissamment, toi qui fais advenir un nouvel ordre des choses par ta seule parole, nous te prions ce midi de bien vouloir te révéler à nous prophétiquement. Tu as mis devant nous une collection de paroles cohérentes qui nous racontent une histoire et qui ont été mises par écrit au cours des siècles. Donne-nous de reconnaître à partir de ces seules paroles auxquelles nous avons accès, qui est Jésus, afin que nous nous tournions vers lui comme notre Sauveur. Le monde entier a besoin de Jésus pour son salut. Alors continue de toucher les uns les autres, de par le monde, comme tu le fais jusque-là. Et fais-nous proclamer ces paroles puissantes par lesquelles nous avons été nous-mêmes convaincus. Au nom de Jésus. Amen.